Somnifère, le podcast.
La non-existence des extraterrestres est une idée bien plus dérangeante que celle de leur existence. Quel vertige! Et en même temps, quelle responsabilité! C'est peut-être cela le message le plus subversif et le plus ancien. Nous sommes peut-être seuls dans l'univers, et si nous échouons, il n'existera plus rien nulle part. Écrit Bernard Werber. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 28 septembre et Somnifère vous emmène ce soir en Normandie, autour des magnifiques falaises d'Étretat, où un homme affirme avoir été témoin d'événements surnaturels dont il fait le récit. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation.
La séance de relaxation.
Installez-vous confortablement, fermez les yeux. S'il fait un peu frais, couvrez-vous jusqu'aux épaules. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Et laissez tout le stress de votre journée s'échapper à l'expire. À nouveau, une grande inspiration par le nez. Gonflez le ventre à l'inspire. Et expirez par la bouche. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâchez toutes les tensions. En particulier au niveau de votre dos et de vos épaules, qui s'enfonce complètement dans le matelas. À présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas, tout en concentrant votre attention sur votre respiration, qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez des mains les masser un par un délicatement. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième. Le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche, alors que vos pieds et vos chevilles sont toujours relâchés. Sentez des mains les masser un par un à leur tour, en douceur. D'abord votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, enfin le petit orteil. Ses mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'homme ou alors des mains de femme, commencent à présent à vous masser la plante des pieds de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite. En dessinant des petits cercles, en appliquant des pressions légères et agréables. Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud. À l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et votre ventre simultanément et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables, alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement, vertèbre par vertèbre, avec bienveillance, alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur votre apèse qui ont accumulé beaucoup de tension en appliquant des pressions agréables. Alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de votre apèse, tout en recentrant votre attention sur votre respiration, et notez comme c'est agréable. Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite, et vous massent en même temps de haut en bas. Puis de gauche à droite. puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur, en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle. Les mains remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu, qu'elles se mettent à masser doucement, alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement, à votre rythme, et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations. Notez votre état de calme mental, comme c'est agréable. Quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu.
L'histoire du soir.
Guy de Maupassant, L'homme de Mars. J'étais en train de travailler quand mon domestique annonça. Monsieur, c'est un monsieur qui demande à parler à monsieur. Faites entrer. J'aperçus un petit homme qui saluait. Il avait l'air d'un chétif maître d'études à lunettes dont le corps fluet n'adhérait de nulle part à ses vêtements trop larges. Il balbutia. « Je vous demande pardon, monsieur, bien pardon de vous déranger. » Je dis. « Asseyez-vous, monsieur. » Il s'assit et reprit. « Mon Dieu, monsieur, je suis très troublé par la démarche que j'entreprends. Mais il fallait absolument que je visse quelqu'un. Il n'y avait que vous, que vous. Enfin, j'ai pris du courage, mais vraiment, je n'ose plus. Osez donc, monsieur. Voilà, monsieur, c'est que, dès que j'aurai commencé à parler, vous allez me prendre pour un fou. Mon Dieu, monsieur, cela dépend de ce que vous allez me dire. Justement, monsieur, ce que je vais vous dire est bizarre. Mais je vous prie de considérer que je ne suis pas fou, précisément par cela même que je constate l'étrangeté de ma confidence. Eh bien, monsieur, allez. Non, monsieur, je ne suis pas fou, mais j'ai l'air fou des hommes qui ont réfléchi plus que les autres et qui ont franchi un peu, si peu, les barrières de la pensée moyenne. Songez donc, monsieur, que personne ne pense à rien dans ce monde. Chacun s'occupe de ses affaires, de sa fortune, de ses plaisirs, de sa vie enfin, ou de petites bêtises amusantes comme le théâtre, la peinture, la musique ou la politique, la plus vaste des niaiseries, ou de questions industrielles. Mais qui donc pense? Qui donc? Personne. Je m'emballe, pardon. Je retourne à mes moutons. Voilà 5 ans que je viens ici, monsieur. Vous ne me connaissez pas, mais moi je vous connais très bien. Je ne me mêle jamais au public de votre plage ou de votre casino. Je vis sur les falaises. J'adore, positivement, ces falaises d'Étretat. Je n'en connais pas de plus belle, de plus saine. Je veux dire saine pour l'esprit. C'est une admirable route entre le ciel et la mer. Une route de gazon qui court sur cette grande muraille de rochers blancs et qui vous promène au bord du monde, au bord de la terre, au-dessus de l'océan. Mes meilleurs jours sont ceux que j'ai passés, étendus sur une pente d'herbe, en plein soleil, à 100 mètres au-dessus des vagues, à rêver. Me comprenez-vous? Oui, monsieur, parfaitement. Maintenant, voulez-vous me permettre de vous poser une question? Posez, monsieur. Croyez-vous que les autres planètes soient habitées? Je répondis sans hésiter et sans paraître surpris. Mais certainement, je le crois. Il fut ému d'une joie véhémente. Se leva, se rassit, saisi par l'envie évidente de me serrer dans ses bras, et il s'écria. Ah, quelle chance, quel bonheur, je respire. Mais comment ai-je pu douter de vous? Un homme ne serait pas intelligent s'il ne croyait pas les mondes habités. Il faut être un sot, un crétin, un idiot, une brute, pour supposer que les milliards d'univers brillent et tournent uniquement pour amuser et étonner l'homme, cet insecte imbécile, pour ne pas comprendre que la Terre n'est rien qu'une poussière invisible dans la poussière des mondes, que notre système tout entier n'est rien que quelques molécules de vie sidérale qui mourront bientôt. Regardez la Voie lactée, ce fleuve d'étoiles, et songez que ce n'est rien qu'une tache dans l'étendue qui est infinie. Songez à cela seulement 10 minutes, et vous comprendrez pourquoi nous ne savons rien. Nous ne devinons rien, nous ne comprenons rien. Nous ne connaissons qu'un point, nous ne savons rien au-delà, rien au-dehors, rien de nulle part, et nous croyons et nous affirmons. Ah, s'il nous était révélé tout à coup ce grand secret de la grande vie ultra-terrestre, quel étonnement! Mais non, je suis une bête à mon tour. Nous ne le comprendrions pas, car notre esprit n'est fait que pour comprendre les choses de cette terre. Il ne peut s'étendre plus loin, il est limité comme notre vie. Enchaîné sur cette petite boule qui nous porte, il juge tout par comparaison. Voyez donc, monsieur, comme tout le monde est sot, étroit et persuadé de la puissance de notre intelligence, qui dépasse à peine l'instinct des animaux. n'avons pas la faculté de percevoir notre infirmité. Nous sommes faits pour savoir le prix du beurre et du blé, et au plus pour discuter sur la valeur de 2 chevaux, de 2 bateaux, de 2 ministres ou de 2 artistes. C'est tout. Nous sommes aptes tout juste à cultiver la terre et à nous servir maladroitement de ce qui est dessus. À peine commençons-nous à construire des machines qui marchent, nous nous étonnons comme des enfants à chaque découverte que nous aurions dû faire depuis des siècles, si nous avions été des êtres supérieurs. Nous sommes encore entourés d'inconnus, même en ce moment où il a fallu des milliers d'années de vie intelligente pour soupçonner l'électricité. Sommes-nous du même avis ? Je répondis en riant. « Oui, monsieur. » Très bien alors. Eh bien, monsieur, vous êtes-vous quelquefois occupé de Mars ?
De Mars ?
Oui, de la planète Mars.
Non, monsieur.
Vous ne la connaissez pas du tout ?
Non, monsieur.
Voulez-vous me permettre de vous en dire quelques mots ?
Mais oui, monsieur, avec grand plaisir.
Vous savez sans doute que les mondes de notre système, de notre petite famille, ont été formés par la condensation en globes d'anneaux gazeux primitifs, détachés l'un après l'autre de la nébuleuse solaire.
Oui, monsieur.
Il résulte de cela que les planètes les plus éloignées sont les plus vieilles et doivent être par conséquent les plus civilisées. Voici l'ordre de leur naissance. Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure. Voulez-vous admettre que ces planètes soient habitées comme la Terre?
Mais certainement, pourquoi croire que la Terre est une exception?
Très bien. L'homme de Mars étant plus ancien que l'homme de la Terre... Mais je vais trop vite. Je veux d'abord vous prouver que Mars est habité. Mars présente à nos yeux à peu près l'aspect que la Terre doit présenter aux observateurs martiaux. Les océans y tiennent moins de place et y sont plus éparpillés. On les reconnaît à leur teinte noire parce que l'eau absorbe la lumière, tandis que les continents la réfléchissent. Les modifications géographiques sont fréquentes sur cette planète et prouvent l'activité de sa vie. Elle a des saisons semblables aux nôtres, des neiges aux pôles que l'on voit croître et diminuer suivant les époques. Son année est très longue, 687 jours terrestres, soit 668 jours martiaux, décomposés comme suit. 191 pour le printemps, 181 pour l'été, 149 pour l'automne et 147 pour l'hiver. On y voit moins de nuages que chez nous, il doit y faire par conséquent plus froid et plus chaud.
Je l'interrompis. Pardon, monsieur, Mars étant beaucoup plus loin que nous du Soleil, il doit y faire toujours plus froid, me semble-t-il.
Mon bizarre visiteur s'écria avec une grande véhémence.
Erreur, monsieur, erreur, erreur absolue. Nous sommes, nous autres, plus loin du Soleil en été qu'en hiver. Il fait plus froid sur le sommet du Mont Blanc qu'à son pied.
Je vous renvoie d'ailleurs à la théorie mécanique de la chaleur de Helmholtz et de Schiaparelli.
La chaleur du sol dépend principalement de la quantité de vapeur d'eau que contient l'atmosphère.
Voici pourquoi.
Le pouvoir absorbant d'une molécule de vapeur aqueuse est 16 000 fois supérieur à celui d'une molécule d'air sec. Donc la vapeur d'eau est notre magasin de chaleur. Et Mars ayant moins de nuages, doit être en même temps beaucoup plus chaude et beaucoup plus froide que la Terre. Je ne le conteste plus. Fort bien, maintenant, monsieur, écoutez-moi avec une grande attention, je vous prie. Je ne fais que cela, monsieur. Vous avez entendu parler des fameux canaux découverts en 1884 par monsieur Schiaparelli? Très peu. Est-ce possible? Sachez donc qu'en 1884, Mars, se trouvant en opposition, est séparé de nous par une distance de 24 millions de lieues seulement, monsieur Schiaparelli, un des plus éminents astronomes de notre siècle et un des observateurs les plus sûrs, découvrit tout à coup une grande quantité de lignes noires, droites ou brisées, suivant des formes géométriques constantes, et qui unissaient à travers les continents les mers de Mars. Oui, oui, monsieur, des canaux rectilignes, des canaux géométriques, d'une largeur égale sur tout leur parcours, des canaux construits par des êtres. Oui, monsieur, la preuve que Mars est habité, qu'on y vit, qu'on y pense, qu'on y travaille, qu'on nous regarde. Comprenez-vous? 26 mois plus tard, lors de l'opposition suivante, on a revu ces canaux, plus nombreux. Oui, monsieur, ils sont gigantesques, leur largeur n'ayant pas moins de 100 kilomètres. Je souris en répondant. 100 kilomètres de largeur, il a fallu de rudes ouvriers pour les creuser. Ah, monsieur, que dites-vous là? Vous ignorez donc que ce travail est infiniment plus aisé sur Mars que sur la Terre, puisque la densité de ces matériaux constitutifs ne dépasse pas le 69e des nôtres. L'intensité de la pesanteur y atteint à peine le 37e de la nôtre. 1 kilogramme d'eau n'y pèse que 370 grammes. Il me jetait des chiffres avec une telle assurance, avec une telle confiance de commerçant qui sait la valeur d'un nombre, que je ne pus m'empêcher de rire tout à fait, et j'avais envie de lui demander ce que pèsent sur Mars le sucre et le beurre. Il remua la tête. Vous riez, monsieur. Vous me prenez pour un imbécile, après m'avoir pris pour un fou. Mais les chiffres que je vous cite sont ceux que vous trouverez dans tous les ouvrages spéciaux d'astronomie. Le diamètre de Mars est presque moitié plus petit que le nôtre. Sa surface n'a que les 26e de celle du globe. Son volume est 6,5 fois plus petit que celui de la Terre, et la vitesse de ses deux satellites prouve qu'elle pèse 10 fois moins que nous. Or, monsieur, l'intensité de la pesanteur dépendant de la masse et du volume, c'est-à-dire du poids et de la distance de la surface au centre, il en résulte indubitablement sur cette planète un état de légèreté qui rend la vie toute différente, règle d'une façon inconnue pour nous les actions mécaniques, et doit y faire prédominer les espèces ailées. Oui, monsieur, l'être roi sur Mars a des ailes. Il vole, passe d'un continent à l'autre, se promène comme un esprit autour de son univers auquel le lie cependant l'atmosphère qu'il ne peut franchir, bien que... Enfin, monsieur, vous figurez-vous cette planète couverte de plantes, d'arbres et d'animaux dont nous ne pouvons même soupçonner les formes et habitée par de grands êtres ailés comme on nous a dépeint les anges. Moi, je les vois voltigeant au-dessus des plaines et des villes dans l'air doré qu'ils ont là-bas. Car on a cru autrefois que l'atmosphère de Mars était rouge comme la nôtre est bleue. Mais elle est jaune, monsieur, d'un beau jaune doré. Vous étonnez-vous maintenant que ces créatures-là aient pu creuser des canaux larges de 100 kilomètres. Et puis, songez seulement à ce que la science a fait chez nous depuis un siècle, depuis un siècle. Et dites-vous que les habitants de Mars sont peut-être bien supérieurs à nous. » Il se tut brusquement, baissa les yeux, puis murmura d'une voix très basse. « C'est maintenant que vous allez me prendre pour un fou. Quand je vous aurai dit que j'ai failli les voir, moi, l'autre soir, vous savez, vous ne savez pas, que nous sommes dans la saison des étoiles filantes. Dans la nuit du 18 au 19 surtout, on en voit tous les ans d'innombrables quantités. Il est probable que nous passons à ce moment-là à travers les épaves d'une comète. J'étais donc assis sur la manne-porte, sur cette énorme jambe de falaise qui fait un pas dans la mer, et je regardais cette pluie de petits mondes sur ma tête. Cela est plus amusant et plus joli qu'un feu d'artifice, monsieur. Tout à coup, j'en aperçus un au-dessus de moi, tout près, un globe lumineux, transparent, entouré d'ailes immenses et palpitantes, ou du moins j'ai cru voir des ailes dans les demi-ténèbres de la nuit. Il faisait des crochets comme un oiseau blessé, tournait sur lui-même avec un grand bruit mystérieux, semblait haletant, mourant, perdu. Il passa devant moi, on eût dit un monstrueux ballon de cristal, plein d'êtres affolés, à peine distinct mais agité comme l'équipage d'un navire en détresse qui ne gouverne plus et roule de vague en vague. Et le globe étrange, ayant décrit une courbe immense, alla s'abattre au loin dans la mer où j'entendis sa chute profonde, pareille au bruit d'un coup de canon. Tout le monde d'ailleurs dans le pays entendit ce choc formidable, compris pour un éclat de tonnerre. S'ils étaient tombés sur la côte près de moi, nous aurions connu les habitants de Mars. Ne dites pas un mot, monsieur, songez. Songez longtemps, et puis racontez cela un jour si vous voulez. Oui, j'ai vu le premier navire aérien, le premier navire sidéral lancé dans l'infini par des êtres pensants. À moins que je n'ai assisté simplement à la mort d'une étoile filante capturée par la Terre. Car vous n'ignorez pas, monsieur, que les planètes chassent les mondes errants de l'espace comme nous poursuivons ici-bas les vagabonds. La Terre, qui est légère et faible, ne peut arrêter dans leur route que les petits passants de l'immensité. Il était levé, exalté, délirant, ouvrant les bras pour figurer la marche des astres. Les comètes, monsieur, qui rôdent sur les frontières de la grande nébuleuse dont nous sommes des condensations, les comètes, oiseaux libres et lumineux, viennent vers le soleil des profondeurs de l'infini. Elles viennent, traînant leur queue immense de lumière, vers l'astre rayonnant. Elles viennent, accélérant si fort leur course éperdue qu'elles ne peuvent joindre celui qui les appelle. Après l'avoir seulement frôlé, elles sont rejetées à travers l'espace par la vitesse même de leur chute. Mais si au cours de leur voyage prodigieux, elles ont passé près d'une puissante planète, si elles ont senti, dévier de leur route, son influence irrésistible, elles reviennent alors à ce maître nouveau qui les tient désormais captives. Leur parabole illimitée se transforme en une courbe fermée et c'est ainsi que nous pouvons calculer le retour des comètes périodiques. Jupiter a 8 esclaves, Saturne 1, Neptune aussi en a 1, et sa planète extérieure 1 également, plus une armée d'étoiles filantes. Alors, j'ai peut-être vu seulement la Terre arrêter un petit monde errant. Adieu, monsieur. Ne me répondez rien. Réfléchissez et racontez tout cela un jour, si vous voulez. c'est fait. Ce toquet m'ayant paru moins bête qu'un simple rentier.
Bonne nuit. Bonne nuit.